Bonjour, nous avons le plaisir ce matin de recevoir le père Paul-Antoine Drouin, qui est vicaire général du Mans et qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer à cette émission consacrée au fait de Pomain, à l'abbé Guérin et à la très sainte Vierge Marie. Bonjour mon père.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais à l'instant, vous êtes le jeune vicaire général du diocèse du Mans. C'est une fonction importante, mais pourriez-vous, pour commencer, expliquer à nos auditeurs en quoi consistent précisément vos fonctions et vos responsabilités au sein du diocèse ?
Avec plaisir, mais c'est vrai que ça me fait toujours sourire quand on dit jeune vicaire général, ça fait maintenant déjà 7 ans.
Mais vous êtes très jeune, mon père.
Mais oui, c'est 45 ans, ça va, c'est encore jeune, c'est bien. Et la mission du vicaire général, en fait, c'est assister l'évêque, hein, dans sa mission d'apôtre, telle qu'elle a été voulue de manière nouvelle au moment du Concile Vatican II. Donc c'est lui permettre aussi de se détacher d'un certain nombre de sujets administratifs du diocèse qu'il faut suivre. Donc c'est une mission très large, hein, autant pastorale qu'administrative. Et ça, quand on est prêtre, on n'est pas nécessairement prêt ou préparé à ça. Puis c'est être proche collaborateur et on travaille avec beaucoup d'autres personnes, se mettre les gens en communion, voilà, et profiter des charismes des uns et des autres, aider l'évêque dans sa mission en particulier.
C'est une tâche lourde et importante.
Oui, mais qui est joyeuse parce que voilà, c'est vraiment pour le service du Seigneur. Moi, je le vis dans la joie, puis avec la chance d'avoir un évêque aussi, Monseigneur Le Sceau, voilà, qui permet de vivre cette mission vraiment de manière heureuse et puis en faisant confiance. Voilà, ça invite tout le monde à la confiance.
Vous êtes un vicaire général heureux, mon père.
Oui. Voilà, ça n'empêche pas les désagréments de chaque jour, mais tout le monde, tous nos auditeurs vivent ça à leur manière, mais dans le fond, et puis dans cette confiance, hein, c'est vraiment se mettre à la suite du Seigneur par la mission qu'il nous demande à un moment donné.
Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un essai qui porte un très beau titre, « Remèdes à la fatigue de croire », qui a été publié l'an dernier chez MAM. C'est un titre qui est déjà en soi tout un programme. Pourriez-vous, mon père, nous parler de ce livre et nous dire ce qu'est cette fatigue de croire et quels sont les remèdes que vous y préconisez ?
Effectivement, ce titre, alors j'avoue que c'est l'éditeur qui l'a trouvé, parce que moi j'avais un autre titre, mais en lisant le livre, voilà, l'éditeur a dit « mais on va retenir cette expression ». Et en fait, c'est une expression du pape Benoît XVI. Et en décembre 2011, comme le font tous les papes à ce moment de l'année, il rassemble tous ses cardinaux pour leur souhaiter des vœux de bonne année et faire un peu un bilan de son apostolat. Et il revenait quelques mois auparavant, il était en Afrique. Et il avait découvert, rencontré une église qui était jeune et vivante. Et il se posait la question avec ses cardinaux de dire « mais qu'est-ce qui fait qu'en Occident, on soit tombé dans un christianisme qui est aussi fatigant et ennuyeux parfois ?» Vous voyez, des expressions étonnantes dans la bouche de Benoît XVI, mais on faisait moins attention parce qu'il disait tout sur le même ton. Et alors il propose lui-même des remèdes à la fatigue de croire, et en se réorientant sur le fond, hein, sur la foi. Et moi, dans ce livre qu'on a voulu avec Mgr Le Sceau, hein, c'était de redire aux uns et aux autres, mais on a des formidables raisons de croire aujourd'hui, à condition qu'on se situe du côté de la fécondité et non pas de la stérilité de l'Évangile. Moi, je ne sais pas si vous percevez ça, mais des fois, on a l'impression d'avoir des chrétiens un petit peu fatigués parce que on se met plein de choses sur les épaules et on voit pas tous les petits signes de l'Esprit Saint et qui fécondent vraiment par des petits germes dans nos communautés. Il y a plein de choses admirables. Moi, par mon ministère, j'ai cette chance de tourner dans les différentes communautés chrétiennes et de voir que quand on regarde de près, il y a plein de choses qui naissent. Et dans le livre, justement, un des remèdes à la fatigue de croire, c'est le principal, c'est le catéchuménat. Vous savez, c'est donc la préparation au sacrement de l'initiation chrétienne, du baptême, pour les adultes, qui est une formidable source de joie et d'avenir dans notre Église.
Vous avez beaucoup de catéchumènes dans le diocèse du Mans, mon père ?
Alors, ça va entre 30 et 45,
ah, effectivement,
à peu près. Et puis, à peu près, là, cette année, je crois qu'ils sont 110 à demander la confirmation en étant adulte, quoi. Mais c'est vrai que c'est un choix qu'on fait. Notre évêque est arrivé, hein, c'est un évangélisateur, et il a dit, mais il faut aujourd'hui qu'on propose la foi à nos contemporains sans prosélytisme, mais sans aussi être peureux. Simplement proposer l'Évangile, parce que c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui.
Mais c'est vrai, c'est un peu l'impression que vous donniez tout à l'heure. Je pense que les chrétiens athées d'Afrique ont toujours l'air d'éclater de joie, et nous, on a toujours l'air de porter le diable en terre, comme on disait autrefois, ce qui est
Mais c'est ça, mais c'est parce que aussi on a sur le poids, il faut le reconnaître, hein, c'est on a pour la plupart, je vois dans le diocèse du Mans, où ça fait bientôt 17 siècles que le christianisme est arrivé, faut assumer aussi tout le poids de l'histoire, ça amène beaucoup de joie, mais ça amène aussi un certain poids, et des fois il faut arriver à dire, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut ? Je me souviens quand le pape Benoît arrivait au balcon de la basilique Saint-Pierre, lorsqu'il a été élu, il a dit, moi je suis là, c'est simplement pour discerner la volonté du Seigneur. Et nous, c'est un peu, on est dans cette démarche, je veux dire, qu'est-ce que veut le Seigneur pour aujourd'hui ?
Mais souvent, nous ne savons plus discerner, c'est peut-être un des problèmes de notre époque.
Parce que pour discerner, il faut savoir s'arrêter, ouais. Et on ne sait pas trop s'arrêter, je crois.
Ni s'arrêter, ni se taire, ni écouter, je crois que c'est un des grands problèmes.
Ça en fait partie, c'est certainement ça, oui.
Et parmi ces remèdes à la fatigue de croire, mon père, est-ce que la dévotion mariale en fait partie ?
Alors, c'est vrai que j'en parle peu dans le livre que j'ai écrit, parce que je vous dis, ça s'est orienté plus sur le thème du catéchuménat, mais la dévotion mariale, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, pour moi, personnellement, j'ai du mal à dire que j'ai une spiritualité mariale, parce que je suis vraiment centré sur le Christ, et en même temps, et votre question me permet de relire un peu les choses, je vois que chaque jour, j'aime prier le chapelet, j'aime terminer ma journée par une litanie à la Vierge Marie, donc en fait, il y a quand même une spiritualité mariale, mais... qui est vraiment orienté sur Jésus, comme Marie dans l'Évangile nous dit de le faire. Hein. Moi, je trouve ça admirable, ce petit conseil qu'elle donne à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Moi, j'en dis pas plus, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et j'ai l'impression qu'à Pontmain, dans le message qu'elle délivre aux enfants, puis à nous tous aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous dit, quoi. Elle met Jésus au centre. Hein.
Mais ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'Évangile qu'on lit à la messe de Notre-Dame de Pontmain est celui des noces de Cana.
C'est celui-là, effectivement, ouais, qui est pris. Ouais. Ouais, mais c'est ce magnifique message. Hein. Jésus, il se laisse toucher.
Il se laisse donc, toujours allez-y. Toucher.
Ouais.
C'est ça qui est très beau. Mais d'ailleurs, vous disiez, vous aviez une piété d'abord christocentrique, ce qui est normal, mais c'est toujours la Notre-Dame conduit à Jésus. C'est ce que disait Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort à Jésus, Père Marie.
C'est ça, et puis des saints Bernard, etc. Et ce qui est touchant dans la Vierge Marie, je trouve, c'est que... Et ça, c'est la bonté de Dieu même. De dire, si des gens... ne passe pas d'abord par moi, qu'il passe par ma mère, vous voyez. Et je trouve qu'il y a tant de personnes simples, malades, des personnes âgées qui trouvent Marie comme première actrice de la foi, et bien que c'est, qu'il faut le prendre, quoi. Elle nous conduit vers Jésus de toute manière.
Et combien voyons-nous de gens, en effet, qui entrent dans les églises uniquement pour brûler un cierge devant une statue de Notre-Dame ? Mais je dis toujours, c'est peut-être un peu superstitieux dans certaines démarches, mais au moins ils font l'effort de venir, et tôt ou tard avec elle. Ils reviendront.
Et un vrai acte de foi de leur part. Hein.
Bien entendu.
Et si c'est Marie qui est la porte d'entrée, tant mieux, quoi. Tant mieux.
C'est la meilleure des portes.
Voilà.
Pourriez-vous évoquer pour nos auditeurs, mon père, les grands lieux de pèlerinage marial dans le diocèse du Mans ? Je pense à Notre-Dame du Chêne, bien entendu, mais il y en a certainement d'autres.
Alors, c'est vrai que le lieu principal pour nous, c'est le sanctuaire de Notre-Dame du Chêne, un sanctuaire de la fin du XVe siècle et que tenu aujourd'hui par la communauté Saint-Jean, avec le Père Alain-Dominique, qui fait beaucoup de choses pour ce sanctuaire. Et puis après, on a toute une série de petits sanctuaires. Là, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple Notre-Dame de l'Habit, Notre-Dame des Vertus à la Flèche, Notre-Dame à Saint-Rémy-du-Val. Et puis un lieu qui est sûrement aussi à creuser, parce que alors il est antique, ce lieu. On nous dit que c'est au moins 700 ans, mais peut-être même bien avant. C'est Notre-Dame de la Feigne. Alors ça se situe à Pont-Vallin, dans la partie sud du diocèse, et un lieu touchant parce que ici viennent se confier les couples qui ont du mal à avoir des enfants, et qui à mon avis est un vrai sujet aujourd'hui, et que nous en tant qu'église on a à prendre en compte hein, pour soutenir ces personnes. Mais un petit lieu où il y a un pèlerinage, je crois à chaque fois le lundi de Pentecôte, et où les personnes viennent confier, c'est ça, cette attente et ce désir d'enfant.
Et c'est un sanctuaire donc pour lequel le diocèse... fait des efforts afin de le remettre en avant.
Alors il y a une très belle équipe hein, qui prend les choses en main, mais certainement qu'on pourrait même faire plus, je crois, rien que par le message qui est délivré dans ce petit sanctuaire.
Mon père, que représente Pontmain pour vous ?
Alors moi, quand on parle de Pontmain, déjà ça me met le sourire aux lèvres. Moi j'ai toujours été, depuis que je connais ce lieu, j'ai toujours été séduit par ce lieu, et ces dernières années, j'avoue vraiment que je l'ai découvert plus en profondeur, entre autres parce que je trouve qu'il y a un beau témoin qui nous aide à le découvrir, là, le Père Dullier. Moi, chaque fois que je l'ai peut-être entendu 15 fois parler des événements de Pontmain, et je trouve que je suis toujours touché.
Il y met tant d'enthousiasme.
Puis on a l'impression qu'il était là, quoi, au moment des événements. Et c'est magnifique. Et pour moi, c'est un sanctuaire marial qui a gardé toute sa simplicité, à la différence de d'autres grands sanctuaires dont on a évidemment besoin. Mais moi, je me retrouve plus dans ce genre de petit sanctuaire humble. Et puis on marche par coup de foudre dans la vie. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour Pontmain. Et je trouve qu'on est dans ce village, on n'a pas de mal à s'imaginer les événements fondateurs de 1871. Et je me souviens d'une retraite spirituelle, ce qu'on va régulièrement, les prêtres du diocèse du Mans, en retraite à Pontmain. Et un mois de février où il y avait de la neige, et voir Pontmain sous la neige, j'avais l'impression d'être là avec toute la famille au pied de la grange. Mais sinon je dirais de Pontmain aussi, ça m'évoque une expression biblique qui est parfois un peu ambiguë, mais qui est celle de la revanche de Dieu. Vous voyez, je trouve que tout le monde avait abandonné Pontmain après la Révolution. Et il n'y avait même plus de curé. Le préfet disait à Pontmain, de toute façon, il n'y a que des bêtes. Et pour moi, ce sont ces petits lieux avec des petites gens où Dieu se plaît à faire miséricorde. Et ça me fait penser à Nazareth, cette petite bourgade dont la Bible, la seule fois où on en parle dans l'Ancien Testament, c'est pour se moquer de cette petite bourgade.
Que peut-il pourtant venir de bon de Nazareth ?
Voilà. Et pourtant, Dieu fait le choix de cette petite bourgade et cette jeune fille qui n'attendait rien du tout. Et voilà, c'est Dieu fait miséricorde auprès des petits, quoi. Et aujourd'hui encore, malgré la majesté de la basilique, je trouve qu'on perçoit cette simplicité, cette humilité de Dieu dans ce lieu.
Et c'est très vrai, d'ailleurs, pendant très longtemps, on a pris soin, nous autres Mayennais, de garder jalousement Pontmain pour nous.
Oui. Et c'est sûr, alors que l'abbé Guérin, alors est un homme issu du diocèse du Mans, parce qu'au moment où il était ordonné et formé, il était du diocèse du Mans. Mais nous, les Sartois, on aime bien rappeler ça. On dit, rappelons-nous des origines, Pontmain, c'était chez nous. Et puis on en rigole même aujourd'hui en disant, pour nous, Pontmain, c'est un peu comme un poste avancé du diocèse du Mans.
C'était un poste avancé du diocèse du Mans. Le pauvre abbé Guérin avait vraiment été expédié au fin bout du diocèse. Hein.
Ah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais voilà, on est très attaché dans le diocèse du Mans à ce lieu de Pontmain, vraiment.
Je crois percevoir, mon père, une sorte de regret à l'idée que le diocèse du Mans s'est séparé de Pontmain à l'époque où il allait entrer dans le...
Mais juste pour ça, mais on le redit à l'évêque de Laval qu'on aime beaucoup, on lui dit, mais c'est un peu chez nous quand même, Pontmain.
Hein. Oui, mais c'est un peu chez vous, mais je vais vous consoler en vous révélant que l'abbé Guérin a eu de gros ennuis avec Monseigneur Vicard après la scission des deux diocèses, parce qu'il était resté attaché au missel du Mans.
Ah voilà, ça fait que j'apprécie encore plus cet homme.
Et Monseigneur Vicard avait imposé le missel romain, il y a eu de grosses frictions entre lui et l'abbé Guérin qui ne voulait pas lâcher son missel du Mans.
D'accord.
Et pourriez-vous nous parler de l'abbé Guérin, justement ? Je trouve assez admirable que ce prêtre du XIXe siècle, que certains trouvent peut-être un peu désuet, appartenant à une autre époque, j'allais presque dire à une autre église, comment est-ce qu'un prêtre comme l'abbé Guérin peut inspirer un jeune prêtre d'aujourd'hui ?
Oui, moi, c'est vrai que c'est très lié. Hein. Pontmain et l'abbé Guérin, pour moi, c'est très lié. Quand je vais à Pontmain, c'est rare que je ne passe pas sur la tombe du père Guérin pour aller prier auprès de lui. Et moi, ce que je perçois de cet homme, c'est une immense bonté pour ses paroissiens. Moi, quand j'ai demandé à rentrer au séminaire, vraiment mon désir, c'était d'être curé de paroisse. Parce que j'avais eu de très beaux exemples dans ma jeunesse de curé de paroisse, et je voulais être comme eux. Et quand j'ai découvert la figure de l'abbé Guérin, je me suis dit, mais voilà, moi, pour moi, c'est l'idéal du curé de paroisse. Et entre autres, cette petite phrase qu'on cite très souvent de lui, mais quand il arrive à Pontmain, il dit « Je suis votre curé à la vie, à la mort », pour moi, ça résonne vraiment profondément.
Et c'était l'époque aussi où un prêtre ou un évêque, d'ailleurs, restait attaché à leur paroisse ou à leur diocèse. Sont mariés à leur paroisse ou à leur diocèse.
Mais moi, c'est exactement ça qu'il y a derrière. Et je me dis, quand on donne son cœur aux gens, on ne leur dit pas quand on arrive « Je vous donne mon cœur pour 6 ans ». Et sinon, on voit bien que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dedans. Et personne ne nous croit, et personne ne nous reçoit comme pasteur dans ce cas-là. Mais l'abbé Guérin, il dit, moi, c'est à la vie, à la mort.
Et oui, on a eu une sorte de changement de réflexion dans l'Église, où on a pensé qu'un prêtre ne devait pas trop s'attacher à une paroisse et à des paroissiens.
Oui, mais justement, je pensais, vous voyez que vous me demandiez en quoi l'abbé Guérin, prêtre du 19e, peut nous donner des idées aujourd'hui. Je pense vraiment réellement qu'il y a une vraie question qui vient poser là-dessus, sur le rapport du curé à notre peuple. Et il me semble que le pape François, dans tous ses discours qu'il fait aux prêtres, insiste beaucoup là-dessus. Il dit, vous n'êtes pas des fonctionnaires, mais vous êtes des pasteurs. Et vous avez donné votre cœur à lui. Quoi. Et puis, alors, il y a une autre chose qui me plaît beaucoup, moi, chez l'abbé Guérin, c'est le fait là, qu'il soit battu pendant 2 ans pour obtenir d'aller dans ce petit village, qui n'était même pas un village d'ailleurs, même pas une commune. Il n'y avait plus de curé. Et cet homme, ce désir en lui de se battre auprès de son évêque, non pas pour avoir la plus grosse paroisse du diocèse, mais pour aller justement humblement rejoindre ces personnes. Moi, je trouve ça admirable, une leçon d'humilité qu'il y a là, qui est très forte. Quoi.
Et c'est ce que lui dit Monseigneur Bouvier, qu'allez-vous aller faire dans ce trou où vous allez mourir de faim.
Oui, mais c'est ça. Mais lui, il avait senti ça. Il y avait des hommes et des femmes, et même s'il y en a 200, 500 comme à l'époque, mais ça vaut le coup de donner sa vie pour eux. Et c'est là que la figure de l'abbé Guérin peut vraiment être forte. Surtout que moi, je vois bien la jeune génération dont on est issu et où les prêtres encore plus jeunes sont issus. On voit bien, on a du mal à tenir dans la durée la fidélité. Aujourd'hui, c'est il faut avoir plein d'expérience. Et là, l'abbé Guérin nous dit, c'est pas de l'ordre de l'expérience d'être curé de paroisse. C'est vraiment donner son cœur. Et l'amour, ça s'écrit dans la durée. Moi, je vois l'exemple que j'ai eu quand j'étais curé de La Flèche. Les 3 premières années, tout se passe bien. Au bout de la 6e année, on commence à se battre pour aimer les gens, quoi. Pour tenir, pour rester. Et c'est là que l'amour grandit.
Hein. J'allais dire méchamment, c'est parce qu'on commence à les connaître qu'on les aime moins.
Eh bien, oui, mais et après, une fois qu'on a passé cette étape-là, on se dit, ben, malgré leur misère, je les aime, quoi. Et c'est d'ailleurs toute l'idée de la miséricorde derrière. Hein. C'est « je viens poser mon cœur sur leur misère ».
Et c'est ce qui est admirable chez l'abbé Guérin, d'ailleurs, quand on lit son d'hier, c'est qu'il s'oublie totalement lui-même pour penser à son peuple. Et pourtant, ce n'est pas un sentimental, il n'est pas expansif du tout, il est très réservé même. Mais par moments, on voit que la douleur de son peuple est la sienne.
Oui, tout à fait.
Quelle est, à votre avis, son importance ecclésiale aujourd'hui? Pourquoi être allé chercher un prêtre dépassé? Je mets des guillemets à dépassé, mais c'est un peu l'impression qu'on a parfois à certaines réactions.
Et bien, pour la raison que l'on vient d'évoquer, à mon avis, sa manière d'envisager son ministère de curé interpelle l'Église dans nos manières de faire aujourd'hui. Et donc, c'est ça, les figures de sainteté, elles sont là pour ça, hein, justement. Donc, le curé est un homme donné à son peuple. Et puis, la deuxième chose, je crois, dans notre monde où, vous savez, on nous apprend à nous vendre aujourd'hui. Et il faut avoir un CV, ou il faut apparaître le meilleur pour avoir la place. Lui, c'est la leçon d'humilité. Et de redire pour nous prêtres, si on doit choisir un ministère dans l'Église, c'est celui le plus humble, quoi. Il ne devrait pas avoir de plan de carrière dans l'Église, ni de bâton de maréchal qu'on donne aux prêtres méritants. Mais ce que nous dit l'abbé Guérin, c'est mais aimez votre peuple, quoi. Ça peut remplir votre vie. Et ces deux points-là, à mon avis, peuvent être vraiment un message pour l'Église aujourd'hui.
Alors, c'est la vertu d'humilité chez l'abbé Guérin qui vous touche le plus.
La vertu d'humilité, oui, et puis du don, quoi. Quand il dit aux gens « je viens pour vous aimer », il le fait vraiment. Et il ne dit pas je viens pour... c'est un élément de passage pour avoir demain une plus grosse paroisse. Non, il dit « je me donne à ces hommes et ces femmes ».
C'est très joli ce que vous dites, mon père, et ça me fait penser au décès de l'abbé Guérin. Le bulletin diocésain a eu simplement cette formule. L'abbé Guérin était un de ces bons prêtres comme notre diocèse, heureusement, en compte tant.
Ouais, c'est magnifique.
Heureux diocèse de Laval qui comptait tellement de prêtres de la qualité de l'abbé Guérin.
Tout à fait.
Et qui avait été formé par le diocèse du Mans, d'ailleurs, précisons-le.
C'est ça, on peut le rappeler. Ouais. Mais on sent hein, ça chez des prêtres aujourd'hui hein, qui ont perçu ça aussi, hein, à la suite de l'abbé Guérin et bien d'autres. Ouais.
Mais c'est une... Quelquefois, on me dit, c'est une sorte de curé d'Ars. Je dis non, le curé d'Ars, c'est une sainteté très humble, certes, mais accompagnée de charismes qui ne sont pas donnés à tout le monde. Personne ne peut envisager d'être le curé d'Ars, sauf grâce absolument stupéfiante. Et celles-là, elles ne sont pas dans la vie de l'abbé Guérin. Mais n'est-ce pas en cela une figure de sainteté dans sa simplicité, beaucoup plus abordable que ne peut l'être justement quelqu'un comme le curé d'Ars?
Oui. Alors, le curé d'Ars, s'il peut paraître un peu inabordable, c'est plutôt ce que nous, on en a fait. Parce que lui, je pense vraiment que cet homme n'avait aucune vocation à s'imposer aux autres par sa sainteté. Et je crois que c'est le propre des saints, que ce soit le curé d'Ars ou comme on l'espère bien l'abbé Guérin un jour. Ces hommes-là, justement, ils n'ont pas conscience d'être supérieurs aux autres. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à être tout proches. Et vous savez, il y a cette très belle phrase de saint Paul dans la lettre aux Philippiens où il dit « Estimez les autres supérieurs à vous-même, sinon vous deviendrez intrigants et vantards ». Et en fait, ces hommes, ils n'avaient pas conscience d'être supérieurs aux autres.
Mais un saint n'a jamais conscience de sa sainteté. Sans ça, il sombrerait dans l'orgueil.
Et puis, il viendrait odieux pour les autres, quoi. Mais justement, là, c'est la simplicité de ces hommes qui a fait qu'ils étaient proches de leur peuple. Et les gens disaient, je crois que c'est à Ars, on disait, notre curé, il est point comme les autres, c'est un saint. Mais ce que les gens voyaient, c'était la proximité. Et l'abbé Guérin, à mon avis, c'est vraiment ça que les gens y ont vu. Et d'ailleurs, s'ils ont voulu lui attribuer les apparitions de Pontmain à la suite, c'est parce qu'ils avaient bien senti cet homme était tellement proche d'eux que voilà, il émanait quelque chose de la sainteté de lui sans qu'il le sache.
Alors vous m'avez appris qu'on avait suspendu le portrait de l'abbé Guérin et ceux des autres serviteurs et servantes de Dieu du diocèse du Mans dans la cathédrale. Je trouve que c'est une très belle initiative. Pouvez-vous nous en parler, mais nous expliquer quels sont les buts poursuivis en faisant cela?
Alors, c'est au moment de... Donc, c'est pour l'année du Jubilé de la Miséricorde, effectivement. On a fait 7 petites étapes sur le chemin du pèlerinage dans notre cathédrale. Et justement, l'étape numéro 2, après le passage de la porte, c'est on se rend dans le fond de la cathédrale, au pied du vitrail de Saint-Julien, qui est le premier évangélisateur de notre diocèse. Et après, il y a ces visages de sainteté. Alors, ceux qui sont canonisés ou ceux qu'on espère qu'ils soient canonisés, et qui sont dans le fond de l'église, pour mettre un petit peu le peuple chrétien, c'est que des gens locaux. Hein.
Alors, oui, ce sont les causes du diocèse.
Local, on va jusqu'à Pontmain.
C'est oui. Mais c'est une cause conjointe à nos deux diocèses.
Mais voilà, et on était là au moment du lancement de la cause à Pontmain. Mais c'est pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui de la Sarthe, de dire, regardez, la sainteté, elle s'enracine dans notre diocèse. Quoi. Et c'est une belle terre qui a produit de nombreux saints, et aujourd'hui encore, on peut continuer la liste. C'est ça le message premier, je crois, que notre évêque a voulu, en mettant les visages de sainteté dans la cathédrale.
Je trouve ça très beau et tout à fait dans la droite ligne de Lumen Gentium.
Tout à fait, où la sainteté, c'est pas de faire de grandes choses, mais c'est de faire saintement les petites choses de la vie. Quoi. La sainteté, et ce qui était beau, hein, Lumen Gentium, donc du Concile Vatican II, c'était de dire la sainteté, elle n'est pas réservée uniquement à ceux qui sont rentrés dans la vie consacrée, mais la sainteté, elle est pour tous. Quoi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le pape François, à la fin du synode sur la nouvelle évangélisation, dans son homélie, il a dit cette très belle phrase, il a dit « Aujourd'hui, le langage qui peut parler à toutes les personnes, c'est le langage de la sainteté ». Et voilà, parce que le langage de la sainteté, c'est le langage de la simplicité, de la proximité.
C'est le langage du cœur.
Le langage du cœur, oui.
Et celui de Dieu, par la même occasion, et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que Dieu est amour. Je crois souvent nos contemporains ont tendance à oublier que Dieu est amour.
Voilà, Mais à nous de savoir le rappeler, parce qu'en fait, c'est pas un... le problème, il n'est pas du côté de nos contemporains, il est de notre côté à nous.
Oui.
Qu'est-ce qu'on dit de Dieu, quoi. Ouais.
Qu'est-ce que nous renvoyons comme image de Dieu et de l'Église?
Tout à fait. Ouais.
Bien, mon père, un très grand merci pour cette intervention. Je rappelle que nous avions le plaisir d'accueillir le père Paul-Antoine Drouin du diocèse du Mans, vicaire général. Merci encore, mon père.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.